Merci à nos trois intervenants. Est-ce qu'il y a des questions?
Je peux faire une observation. En fait, j'étais pas très sûr s'agissant de l'efficacité de la loi de 78, en tout cas de sa modification, et j'avais davantage l'impression qu'il y avait un assouplissement de l'encadrement juridique des fichiers de sécurité dans la mesure où l'autorisation de la CNIL n'est plus requise. Ça, c'était l'observation. La question, c'était porter davantage sur la porosité qui peut exister entre les fichiers de police proprement dit et les fichiers administratifs du style de la carte nationale d'identité, du passeport. J'ai pas eu l'impression que vous avez fait la différence ou que vous faites la différence entre ces différents systèmes d'identification. Et j'aimerais savoir si en réalité cette absence de distinction entraîne, si vous voulez, le fait qu'on pourrait se dire que l'ensemble des fichiers qui sont mis en œuvre ou l'ensemble des systèmes d'identification qui sont mis en œuvre par les autorités publiques peuvent être utilisés et sont utilisés par la police.
On ne saura pas trop de deux pour essayer de répondre à cette question. Moi, deux remarques. Je me suis placé d'abord pour répondre à la première, à la modification de la loi de 78 par la loi de 2004 à laquelle vous avez fait allusion. Je me suis situé d'un point de vue très global, autant et largement plus avant la loi de 78 qu'après. Donc, de ce point de vue-là, la loi de 78 crée quand même une contrainte nouvelle pour les administrations. Sur votre question tout à fait essentielle, à savoir est-ce qu'il peut y avoir usage par les services de police des fichiers d'administration et vice-versa, c'est le sens, je crois, de votre question. Alors de ce point de vue-là, précisément, c'est en raison de cette tentation, si ce n'est, on peut l'imaginer, du passage à l'acte, c'est-à-dire du fait que l'administration a commencé à essayer d'avoir accès à certains fichiers de police et l'inverse, que avait été réuni par le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui est actuellement le président de la République, un premier groupe de travail en 2006, qui a été à nouveau réuni dans le cadre de la polémique Edwige en septembre 2008, et qui a eu précisément pour objet, donc deux rapports publics qui ont été publiés, tout à fait intéressants à regarder, qui ont eu précisément pour objet d'essayer de mettre au clair la capacité, notamment pour l'administration et pour les préfets, d'utiliser les fichiers créés par les services, par l'administration judiciaire. Bien. Et de ce point de vue-là, un certain nombre de recommandations ont été faites par le groupe de travail Bauer, mais c'est la loi qui, en amont du groupe de travail, a déjà finalement autorisé non pas l'interconnexion, parce que la CNIL est là quand même pour lutter contre l'interconnexion globale de tous les fichiers, mais la loi, c'est les lois sur la sécurité, la loi de 95 et les LOPS, les lois successives des années 2000, je parle là sous le contrôle de Pierre Piazza, qui ont autorisé finalement les deux administrations, l'administration administrative, si je puis dire, l'administration de la justice, à puiser dans leurs fichiers respectifs pour un certain nombre de cas, notamment quand on fait des enquêtes, je crois, pour les fonctionnaires. Et ça, de ce point de vue-là, je crois que, à mon sens, hein, mais là je ne suis pas vraiment compétent, les autorités de régulation comme la CNIL sont assez désarmées parce que c'est un principe qui est inscrit en amont, enfin, dans une loi postérieure, mais dans une loi. Voilà. Je ne sais pas si tu...
Mais David Larbre doit connaître ça par cœur. Tu sais très bien que les fichiers de police constitués à des fins judiciaires sont aussi de plus en plus utilisés à des fins administratives. C'est-à-dire que on va utiliser ces fichiers pour savoir si un candidat a une bonne moralité, etc. Et ce qui pose problème, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans des fichiers comme le STIC, qui est un fichier dans lequel vous pouvez être fiché alors que vous n'avez pas été condamné, et pour autant, cela peut avoir un impact sur votre carrière administrative. Concernant plus particulièrement l'accès des services de renseignement au fichier administratif. Je crois qu'il y a quand même eu une loi de 2003 sur l'antiterrorisme qui a été adoptée et qui permet aux services de renseignement d'avoir accès à ces documents, voire même de photographier les plaques d'immatriculation des véhicules. Donc voilà, on est bien ici dans un processus dans lequel les services de renseignement maintenant ont un accès entier à ce type de fichiers. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus.
Je veux juste ajouter que c'est inscrit, comme il vient d'être dit, dans la loi. Donc c'est plus le même contexte. On sort des pratiques administratives dissimulées en dehors du règne de la loi, voire même en dehors du droit réglementaire, ce qui a été le cas pendant un siècle et demi, deux siècles, des pratiques de surveillance pour rentrer dans le règne de la loi. Donc c'est autorisé par cette loi antiterroriste, c'est autorisé par la LOPS de 1995. Donc la réalité demeure la même, je vous l'accorde. Mais du point de vue de celui qui observe, qui essaie d'analyser, c'est un changement malgré tout.
Oui, bonjour. On parle surtout ici, enfin, c'est pour ça que je suis venu, pour savoir comment on faisait les fichiers. Mais ça m'a fait penser à ce qu'un ou des gouvernements mal intentionnés pouvaient faire avec des fichiers. On a parlé de la mention juif sur les documents d'identité de Vichy, mais dans une période historique plus récente, on a aussi mis la mention Tutsi sur les cartes d'identité, et notamment dans le livre Une guerre noire chez La Découverte, c'est assez horriblement analysé. Voilà, ça c'est juste pour nous faire peur.
Je peux dire deux mots là-dessus. En effet, le gros problème, c'est quand l'identité de papier en vient à se substituer à l'identité réelle, c'est-à-dire que l'individu n'est plus réduit qu'à la mention qui figure sur sa carte d'identité, en l'occurrence Hutu, Tutsi ou Juif, et que cette mention sert directement les fins répressives d'un régime ou d'un État, qu'il soit autoritaire ou totalitaire. Et donc là, oui, on est dans des cas extrêmes où, en fait, l'identité de papier et l'identité réelle correspondent à la même chose. C'est-à-dire que l'individu n'est plus que ce qui est inscrit sur son papier, quoi, à des fins de stigmatisation, bien sûr. Donc là, on est dans des cas extrêmes où, bien sûr, les procédures d'identification servent directement l'extermination des personnes. Bon, il y a quelques cas comme ça aussi au Liban, où on indiquait la religion sur les cartes d'identité. Alors bon, il faut toujours avoir à l'esprit ces cas un peu extrêmes, mais je crois qu'aujourd'hui il y a aussi des cas en France où, par exemple, il y a des discriminations administratives ou bureaucratiques qui sont importantes. Tous les Français dits d'origine étrangère qui ont du mal à renouveler leur papier d'identité, etc., et auxquels on fait comprendre qu'ils ne sont pas des Français comme les autres, c'est aussi une violence plus symbolique, mais c'est une violence forte. Et certains d'entre eux ont même vu, il y a pas mal de questions à l'Assemblée nationale et au Sénat qui ont été consacrées à ce problème, on leur a posé une mention spécifique sur leur passeport. Quand ils ont voyagé à l'étranger, ils se sont fait contrôler et pour certains arrêter pendant plusieurs heures parce que on leur demandait ce qu'était cette mention qui les stigmatisait comme vraiment des citoyens pas comme les autres, quoi. Donc tout ce qui touche en effet à ces alors ça peut être des dysfonctionnements administratifs, mais ont des impacts directs sur le vécu des personnes, bien sûr.
Oui, bonjour. J'avais une petite question à vous poser un peu à tous les trois, en tant qu'historien, politologue et spécialiste du monde du renseignement et de la démocratie, qui peut parfois être un peu vacillante. Quelle est l'interaction qu'il y a eu entre, justement, les institutions républicaines et les institutions impériales de cette même république? Par exemple, dans l'anthropologie et l'anthropométrie, quelle est la connexion qu'il y a eu, sur le plan des savoirs, entre le développement des mesures, justement, des crânes des Tutsis ou des Hutus ou des Sénégalais ou des Annamites et la création de la bureaucratie tant impériale que nationale. Okay. Comment s'établit cette relation entre la République et son empire pour ficher les populations?
Pierre Piazza vous répondra sur les institutions coloniales, parce que je crois qu'il a un projet de recherche dessus. En ce qui concerne, c'est sûr que les progrès de l'anthropologie physique au XIXe siècle ont un rôle dans l'émergence de l'anthropométrie, enfin du Bertillonnage en particulier, parce que Bertillon était lié familialement à un milieu de statisticiens, de démographes et des amis de Broca notamment. Le fameux médecin et anthropologue, anthropologue de l'anthropologie physique au XIXe siècle. Et donc, le bertillonnage, c'est la combinaison ça fait sauter, si vous voulez, quelque chose de très important par rapport à ces techniques de signalement dont je vous ai un petit peu parlé, mais très brièvement, très primitives qu'il y avait au XVIIIe siècle. C'est qu'on n'arrivait pas, si vous voulez, à trouver des points fixes, des points intangibles, dans l'identité physique. Il y avait bien les marques particulières, mais enfin, c'était pas un système, c'était pas très facile, ni très facile à repérer, toujours, ça pouvait être altéré. Donc là, vous avez un mélange, et puis il y avait l'autre problème, qui était le classement des données. Là, ici, le bertillonnage, c'est l'alliance à la fois des progrès des découvertes l'anthropologie physique, donc des mesures crâniennes, et puis de la statistique, c'est-à-dire les mathématiques, du calcul statistique, qui permettent de retrouver les fiches de façon beaucoup plus rapide. C'est le traitement de l'information dont on parlait tout à l'heure, Sébastien Laurent.
Non, mais sur les colonies, en fait, il y a très peu de travaux. Et il y a un historien avec lequel je travaille un peu qui s'appelle Ilsen Aboud, qui a découvert des sources archivistiques sur la question, notamment l'application du bertillonnage en Indochine. Donc elles n'ont pas été traitées, donc je ne peux pas en dire plus. Mais il y a eu des choses, il y a eu des choses. Et notamment sur les empreintes digitales, un des hauts lieux de la mise en œuvre sur grande échelle des empreintes digitales, c'est l'Afrique du Sud, initialement.
L'Inde, bien sûr, le Bengale, mais aussi
l'Afrique du Sud à des fins répressives et discriminatoires.
Ouais. Donc là, c'est des techniques coloniales qui ont effectivement été importées. Ah, oui. Parce qu'on était dans un contexte. Alors en Inde, ça a été assez bien étudié par l'historien anglais et indien. Parce qu'on est dans un contexte qui est celui de l'illettrisme, de très grand nombre de populations, une situation aussi très complexe sur le plan social, qui fait qu'on utilise cette technique donc de l'empreinte parce que justement c'est un moyen, je dirais parallèle, ça se fait exactement à la même époque que le bertillonnage en fait en France, c'est une simplicité, je dirais, technique tout à fait
c'est moins coûteux aussi.
Voilà, ouais.
On va prendre une toute dernière question parce qu'après on va faire une pause pour que tout le monde puisse aller déjeuner et on reprendra à 14h, donc très rapidement une dernière question.
Merci. Moi, quelque chose que j'ai trouvé un peu absent dans votre exposé, c'est qu'aujourd'hui, on a une ère au niveau historique qui est totalement nouvelle, où on a une technologie qui n'a pas de pareil dans l'histoire. Or, cette technologie qui n'a pas de pareil dans l'histoire, elle fait apparaître quand même des choses qui sont aussi complètement nouvelles, qui sont, entre autres, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, toutes les techniques de sécurité qui peuvent être mises en place, elles nécessitent des entreprises, elles nécessitent tout un système technologique dont on n'avait pas forcément l'usage par la suite. Et ça fait passer ce champ de la surveillance, de l'identification, de la sécurité dans le domaine privé, ce qu'on n'avait pas avant. Et ça, je voudrais savoir comment, en tant qu'historien, sociologue, vous vous positionnez par rapport à ça.
Un bref mot, et ça vous avez parfaitement raison, notamment sur tout ce qui est biométrique, mais pas seulement. De ce point de vue-là, il est évident qu'il y a une rupture à cause de la rupture technologique, si c'est une rupture technologique. En revanche, sur les pratiques plus générales de surveillance et de surveillance privée, elles sont là aussi très anciennes. Elles commencent en France sous la monarchie de Juillet, il y a des sociétés de renseignement commercial qui se créent à cette époque-là, des sociétés de gardiennage, sociétés de vigile, ce qu'on appelle des vigiles, naissent dès cette époque-là. En dehors de la loi, la première loi en la matière, c'est 1942, puis 1989, donc vous voyez, c'est très tardif. Et aux États-Unis, la première police, y compris la police en uniforme, c'est la police de Pinkerton, qui est dans les rues de Chicago en 1855. Et en Grande-Bretagne, c'est pareil, les thief takers qui se payent, si je puis dire, en récupérant des biens volés, sont des indépendants et des privés. Donc le système policier français ou, disons, continental est certainement assez différent des autres systèmes, des systèmes anglo-saxons, dans lesquels la part du privé a toujours été assez forte, si ce n'est première. Et dans le cas, en tout cas, de la Grande-Bretagne, à l'époque moderne, qui était l'époque dont Vincent Denis a parlé, où le 19e siècle américain, l'agence Pinkerton a été une agence qui était même en l'absence d'une police fédérale jusqu'en 1908, et encore, faudrait parler dans les années 20, c'était l'agence Pinkerton et d'autres agences de sécurité privée qui étaient missionnées par la fédération, par l'État fédéral, pour remplir des tâches de surveillance, d'arrestation. Le Department of Justice adressait ses services sans passer de marché public, avait recours aux moyens privés. C'est-à-dire que pour l'exécution de décisions judiciaires, on passait par des polices privées. Donc là aussi, vous avez raison sur la situation très contemporaine. Je pense qu'il en sera probablement question cet après-midi, la part du privé. Mais d'un point de vue plus global, hors des questions de la technique d'identification, les pratiques de surveillance privée qui sont finalement externalisées par l'État et par des États faibles, au sens de la structure, dans des États libéraux comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, au XIXe siècle, c'est une réalité forte, pour ne pas dire plus.
Il y a quelques travaux là-dessus, notamment des travaux de Frédéric Octeau sur les nouveaux rapports entre sécurité publique et privée. C'est vrai qu'on a un développement exponentiel de la sécurité privée en France depuis quelques années, convoyage de fonds, vidéosurveillance, biométrie, armement, etc. Alors comment il faut voir ça? Est-ce que c'est la thèse de Frédéric Octeau pose la question, est-ce que c'est un désengagement de l'État? Ou bien est-ce que c'est une autre façon pour l'État de gouverner, c'est-à-dire que ce qu'il délègue au privé, il le contrôle quand même via des autorisations qui permettent de contrôler ce que font ces acteurs privés. Donc il faudrait peut-être davantage d'études en la matière, mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on peut pas nier. Historiquement, on voit bien qu'en matière d'identification, je parle seulement d'identification, c'est monopolisé par l'État. On voit que maintenant les nouvelles technologies l'obligent à déléguer. Alors maintenant aussi, les États soutiennent leurs propres entreprises. Il y a des enjeux économiques qui sont très forts. Quand on voit tout ce qu'on biométrise, les visas, les passeports, etc. Il y a des sociétés françaises comme Sagem, Thales, etc. qui veulent être soutenues par la France ou en tout cas par l'Europe, parce qu'ils se disent que sinon ce sont des marchés qui vont être captés par les autorités américaines. Donc c'est un jeu assez complexe.
Juste en complément, un tout petit point factuel. Il y a 15 jours, un livre blanc sur la sécurité privée en Europe a été remis au ministre de l'Intérieur. Il y a dedans une centaine de pages, que vous trouvez sur Internet, des données très intéressantes. On voit que le pays dans lequel la part de surveillance privée dans la surveillance globale est le plus fort, c'est surtout dans les pays d'Europe de l'Est, notamment en Hongrie. Et la France, elle, se situe en dessous du niveau médian. Donc, vous voyez, on peut faire plus en la matière.